BW. Vue d'Allemagne.
La fête de la démocratie, des festivités sont organisées cette semaine en Allemagne pour le 75e anniversaire de la loi fondamentale. C'est le texte qui fait office de constitution sans en porter le nom. On verra pourquoi dans un instant en revenant sur la genèse de ce texte qui inspirera même des pays africains au fil des ans. Et puis le grand reportage de la semaine nous emmène au Brésil dans l'état du Rio Grande do Sul, toujours en partie sous l'eau. Vue d'Allemagne, Hugo Flotatalon, micro, los geht's, c'est parti.
Il nous faut considérer cette loi comme quelque chose de sacré, qui nous appartient, surtout après ce que nous avons vécu, comme quelque chose que nous devons défendre, protéger et que nous voulons développer.
C'était il y a 75 ans, le 23 mai 1949, à Bonn, dans l'ouest de l'Allemagne, proclamation de la Grunde Gesetz, la loi fondamentale. 146 articles qui établissent les droits fondamentaux des citoyens et régissent le fonctionnement de la démocratie allemande. Un texte toujours en vigueur, alors qu'il aurait dû être provisoire.
DW.
Alors provisoire, pourquoi ? Eh bien, il faut revenir sur le contexte de l'époque pour comprendre. Nous sommes 4 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1949. L'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation par les Alliés qui ont vaincu le régime nazi. À l'est, la zone soviétique. À l'ouest, les zones britanniques, américaines et françaises. Berlin, vous le savez, est aussi divisée en 4 zones. Alors qu'on est dans le contexte de la guerre froide, ces années de tension entre le bloc de l'ouest, sous l'égide des États-Unis, et le bloc de l'est, communiste de l'URSS, les Alliés veulent doter la partie ouest de l'Allemagne qu'ils occupent d'une constitution. Cela aboutit en 1949 au texte de la Grunde Gesetz, la loi fondamentale. Le terme « constitution » est alors soigneusement évité, explique l'historien Martin Sabro.
Cela ne devait justement pas être une constitution à long terme, mais un texte avec un statut transitoire, jusqu'à ce que le peuple allemand, dans son ensemble, ait pu se décider librement.
En plus, le texte est validé par les Länder et non pas par les citoyens directement. Et puis il ne s'applique donc alors qu'à la partie ouest de l'Allemagne. On mise alors sur une réunification prochaine de tout le pays et on prévoit qu'à cette occasion, l'Allemagne se dotera d'une constitution qui en portera le nom et sera validée par le peuple directement.
DW.
Alors en attendant, que dit ce texte de la loi fondamentale ? Eh bien, il est empreint du contexte de l'époque. L'Allemagne sort de la dictature nazie, de la Shoah. Des millions de personnes ont été assassinées. L'article 1 stipule donc « La dignité de l'homme est intangible ». Les 19 premiers articles listent et détaillent tous les droits fondamentaux, liberté d'opinion, d'expression, de presse, de religion. Tout est consigné par écrit et il est stipulé que ces articles en particulier ne peuvent être modifiés. Le texte pose ensuite les bases du fédéralisme et du régime parlementaire avec le Bundestag et le Bundesrat. On décrit aussi le rôle du président fédéral. Tout cela vise en fait à éviter les erreurs de la République de Weimar. C'était la première démocratie parlementaire en Allemagne de 1918 à 1933, avant l'arrivée des nazis, qui face aux lacunes des textes fondateurs de cette République ont pu devenir hégémonique et la détruire. On veut donc, en 1949, éviter que ça puisse se reproduire. C'est pour cela que les institutions parlementaires sont créées, que les droits fondamentaux sont ancrés dans la loi fondamentale, qu'on détaille le rôle des partis politiques pour éviter qu'ils puissent être interdits sans justification précise et qu'un seul reste au pouvoir. Autre point important aussi, la Cour constitutionnelle est créée. Sorte de garde-fou, ces 16 juges peuvent être saisis par n'importe quel citoyen et doivent veiller à ce qu'aucun texte réglementaire ne viole la loi fondamentale. C'est cette cour aussi qui a le dernier mot en cas de volonté d'interdiction d'un parti politique. Konrad Adenauer, président du Conseil parlementaire en 1949 et futur chancelier de la République fédérale, annonce l'adoption de la loi le 23 mai 1949.
Mesdames et messieurs, selon l'article 145 Je promulgue au nom et par ordre du Conseil parlementaire et avec le concours des députés du Grand Berlin, la loi fondamentale. Elle entre en vigueur à l'expiration du jour de sa promulgation.
On le disait, cette loi fondamentale ne devait être que provisoire, mais en 1989, après la chute du mur de Berlin, alors qu'on prépare la réunification des deux Allemagnes, un débat s'engage. Faut-il cette fois créer une constitution pour remplacer cette loi fondamentale ? La réponse sera rapidement tranchée, c'est non, raconte Astrid Lorenz. Elle est politologue à l'université de Leipzig.
Un débat sur une constitution pour l'ensemble de l'Allemagne a certes été lancé, mais l'idée n'était pas majoritaire dans le pays. La plupart estimaient que la loi fondamentale avait fait ses preuves et qu'une nouvelle constitution était inutile. On voulait de la stabilité.
Le texte et le nom sont donc conservés. Le traité d'unification du 31 août 1990 stipule que la loi fondamentale s'appliquera désormais aux 16 Bundesländer. Il y aura des reproches qui persistent encore aujourd'hui, notamment concernant le manque de référence à l'histoire de l'Allemagne de l'Est dans cette loi fondamentale. Mais elle fait toujours office de constitution en Allemagne, même si des changements ont été apportés au fil des ans. Et depuis 1949, certains pays se sont même inspirés du texte pour écrire leur propre constitution. Le cas le plus connu est celui de l'Afrique du Sud, mais le Cameroun, la Namibie ou même l'Afghanistan ont fait le même.
Vous écoutez la DW.
Vue d'Allemagne, deuxième partie, grand reportage comme chaque semaine. Et on prend aujourd'hui le chemin du Brésil, où le sud du pays vit un cauchemar depuis début mai. Des inondations jamais vues, la pire tragédie climatique de l'histoire de la région du Rio Grande do Sul. Quelques 160 morts au dernier bilan, des dizaines de disparus encore aussi, 600 000 personnes évacuées. La région est encore en partie sous l'eau, vous allez l'entendre. Sarah Cozzolino est sur place pour nous dans la ville d'1,3 million d'habitants de Porto Alegre.
Nous sommes au Centro Vida, l'un des plus grands refuges de Porto Alegre. La plupart des familles qui se trouvent ici ont tout perdu à la suite des inondations. Cynthia Graziel n'oubliera jamais la nuit du 3 mai.
Le courant était si fort qu'il a presque emporté mon mari et ma fille de 11 ans. Il était aux alentours de minuit et on avait presque plus pied déjà quand mon fils le plus âgé est venu nous secourir. On a tout laissé derrière nous. On est venu qu'avec les enfants.
Cynthia, son mari et leurs 8 enfants se serrent sur 3 matelas. Il fait une dizaine de degrés dans cet hangar immense où sont accueillies près de 600 personnes. Pour se protéger du froid et des regards, les familles sont séparées par des palettes en bois recouvertes de tissus. Ce n'est pas la première fois que la maison de Cynthia et sa famille est inondée.
Si je le pouvais, je ne retournerais pas là-bas. Si j'avais la possibilité de trouver un autre logement par ici ou ailleurs, parce qu'on vit dans la peur.
Comme Cynthia, la plupart des personnes accueillies ici viennent de quartiers pauvres qui ont été gravement affectés par les pluies torrentielles. Ces familles pourraient rester dans le centre les 6 prochains mois. Dans la ville de Porto Alegre, 15 000 personnes vivent dans les 150 refuges mis en place. Dans certains quartiers, il faut encore se déplacer en bateau dans les rues, au milieu des décombres, des électroménagers qui flottent et des poissons morts.
C'est un scénario de guerre. Il n'y a plus de hiérarchie, de classe sociale. Nous sommes tous unis, ensemble pour la même cause. C'est le peuple, pour le peuple. Et les pouvoirs publics ne font rien.
Jairo da Silva, 52 ans, habite le quartier populaire de Sarandi depuis toujours. Après avoir trouvé refuge chez des proches, il est tout de suite ressorti pour aider dans son quartier.
Aider les gens me permet aussi de ne pas trop réfléchir. J'ai l'impression de laver mon âme. Nous avons sauvé des animaux, évacué des personnes. Tout ça avec cette petite barque que j'ai trouvée et réparée. Et même si elle n'est pas optimale, on a pu sauver beaucoup de monde.
Certains habitants ont refusé de quitter leur logement malgré la montée des eaux par peur des vols. Ils se sont réfugiés en hauteur au premier étage et vivent isolés.
C'est épuisant, frustrant, stressant. La fatigue mentale est pire que la fatigue physique. Chez moi, je ne fais que des courtes siestes parce que si je quitte ma maison, elle sera pillée.
José Pereira tient un commerce dans la rue où il habite. Avec ses voisins, ils ont mis en place des rondes de jour comme de nuit pour dissuader les éventuels voleurs d'entrer dans les maisons vides.
Il y a des habitants qui sont armés dans cette rue. Tout le monde a des armes et des lanternes. L'autre nuit, à 2h du matin, des gens ont entendu des bruits dans l'eau et ont prévenu mon fils qu'ils allaient vers l'épicerie. Les voleurs ont tenté de piller mon commerce deux fois.
Ce père de famille, originaire du nord-est du pays, avait l'habitude de voir son quartier partiellement inondé lorsqu'il pleuvait beaucoup. Mais cette fois, le système de protection contre la montée des eaux n'a pas fonctionné. Les stations de pompage censées évacuer les eaux pluviales sont tombées en panne. En 2 heures, la situation est devenue incontrôlable. José est en colère contre la municipalité.
Au Brésil, nous avons un gros problème de mémoire. En 6 mois, 1 an, on oublie tout. On pense que ça n'arrivera plus jamais. La dernière inondation de cette proportion, c'était en 1941. Mais on dirait que les autorités tentent de changer le pneu alors que la voiture est en marche. Elles veulent résoudre les problèmes immédiatement, sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Malgré les avertissements des scientifiques, les autorités régionales ont manqué de vision à long terme pour prévoir les risques liés au changement climatique. Marcelo Dutra est professeur d'écologie à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul.
Une grande partie de ce que nous vivons aujourd'hui aurait pu être minimisée si les pouvoirs publics avaient agi différemment. D'abord en évitant la construction de logements proches des régions basses, humides et sujettes au risque d'inondation. Ensuite, en investissant davantage dans la prévention, dans les travaux de contention des eaux et d'adaptation au changement climatique.
L'agriculture dans la région a également été fortement touchée. Le Rio Grande do Sul est le premier producteur de riz du pays et la majorité des rizières ont été détruites par la montée des eaux. Dans la ville d'Eldorado do Sul, le mouvement des Sans-Terre exploite 160 hectares de riz biologique depuis les années 1990. Michel Wodzik a perdu 80% de sa récolte de riz lors de la tragédie. C'est la deuxième fois en 6 mois qu'il doit tout recommencer.
On pense à partir. Nous voulons demander les droits à des nouvelles terres. Parce qu'ici, ce n'est plus possible. La situation s'est détériorée ces 12 dernières années. Et on sait qu'avec le réchauffement climatique, cela ne va pas en s'améliorant. Ces genres de catastrophes vont être plus fréquentes. Alors pourquoi rester ici?
Après cette tragédie, il apparaît évident que de nombreux logements et terres agricoles ne pourront plus être reconstruits au même endroit. Pour la première fois au Brésil, les victimes de cette catastrophe commencent à être appelées de réfugiés ou déplacés climatiques, un terme qui risque d'être de plus en plus commun selon les scientifiques. Sarah Cozzolino à Porto Alegre pour la Deutsche Welle.
Et un chiffre encore qui donne une idée de l'étendue de la catastrophe. Plus de 90% des villes du Rio Grande do Sul ont été touchées par les inondations. C'est avec cela qu'on referme Vue d'Allemagne cette semaine. Rendez-vous avec Anne Le Touzé à ce micro la semaine prochaine. D'ici là, alles Gute, portez-vous bien. Tschüss.